10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michaël Darmon.
Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
L'écrivain Stefan Zweig écrivait en 1934 à propos de la situation en Europe. Toute l'inquiétude qui nous assaille en ce moment résulte de ce que nous ne sommes pas complètement adaptés au nouveau rythme et aux nouvelles dimensions des événements. La crise sanitaire, l'urgence climatique, les jeunes interdits de jeunesse, les événements s'entrechoquent et ont de quoi effrayer et favoriser les replis. Pourtant, il ne faut pas avoir peur, le monde de la science s'est mobilisé en un temps record pour produire des vaccins, mais à ce stade, les gouvernants qui brandissent pourtant les grandes idées sur la solidarité ne demandent toujours pas que le vaccin soit un bien public mondial. Yannick Jadot, vous nous direz, c'est dans la République écologique et solidaire que vous voulez diriger, il y aura un G20 du vaccin. Pour l'instant, vous voulez quand même affronter l'épreuve de la désignation par votre parti Europe Écologie Les Verts. On sait que les écologistes adorent voter et qu'ils n'aiment pas trop les favoris. Nicolas Hulot et Cécile Duflot pourraient vous en parler. D'ailleurs, peut-être qu'ils le font déjà. C'est pourquoi, d'ailleurs, à ce stade, vous choisissez plutôt l'esquive en créant votre plateforme avec vos propositions qui bousculent votre camp sur les questions de la laïcité et de l'économie. Vous, l'ancien de Greenpeace, vous voulez prouver qu'un écologiste peut détenir les codes nucléaires et être le chef des armées, selon la formule consacrée. Vaste programme. Pour votre grand rendez-vous, je salue Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleureau de CNews, qui ouvre cette émission.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Cette semaine, nouvelle conférence de presse du Premier ministre sur l'état sanitaire du pays. Écoutez, et on vous interroge ensuite.
1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier, au lieu d'1 million prévu initialement. Nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections.
Yannick Jadot, le Premier ministre, insiste sur l'accélération de la campagne vaccinale. Finalement, ça n'avance pas si mal.
On est en train de rattraper nos voisins européens, tant mieux. On ne peut que se féliciter de pouvoir vacciner, parce qu'on sait que le vaccin sera probablement la seule issue à cette crise et qu'il va falloir à la fois avoir beaucoup de vaccins, beaucoup de doses, et vacciner très rapidement. Il n'y a pas d'alternative à la fois pour notre pays et, comme vous le citiez, Michael Darmon, pour le monde, puisque avec le développement des variants, on ne peut pas s'isoler et considérer qu'ayant gagné l'immunité d'un pays, on est protégé parce que d'autres variants se développent.
Mais sur la façon de vacciner, sur l'approvisionnement,
le gouvernement travaille bien.
Écoutez, aujourd'hui, incontestablement, ça a démarré. On a pris du retard. Il faut toujours le regretter puisque tout retard, c'est des personnes qui, n'étant pas vaccinées, sont en danger. Donc, quand on fait un couvre-feu à 18h, quand on a autant de contraintes sur nos capacités à nous déplacer et tout ça, évidemment qu'il faut aller très vite sur la vaccination. Et voilà, on a eu du retard sur les masques, on a eu du retard sur les tests, on a eu du retard sur les vaccins, on a du retard sur le séquençage. Ce qu'il faut maintenant, selon moi, c'est véritablement passer à l'échelle européenne, se donner les moyens de vacciner massivement. Et pour vacciner massivement, il faut appliquer ce qu'est la loi en France comme au niveau international. C'est ce que vous citiez, on appelle ça des licences obligatoires, c'est-à-dire qu'on compense évidemment les labos pour le travail qui a été fait, mais on récupère la formule, ça devient propriété publique et on peut comme ça produire massivement. Parce qu'on voit bien que là, du point de vue industriel, ce qu'on est en train, le goulet d'étranglement qu'on est en train d'élargir un peu, c'est la mise en flacon, mais ça n'est pas la production de la formule.
Alors la question, c'est est-ce que les vaccins seront efficace. Cécile Cornudet.
Oui, parce qu'en attendant, le variant anglais inquiète et prospère. Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur, ce matin dans le JDD, dit « Sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces ». Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de se laisser une dernière chance avant de reconfiner ?
On souhaite tous et toutes ne pas être confinés. Faut que les enfants aillent à l'école, évidemment. On a peu de liberté de déplacement, mais on a quelques libertés de déplacement. Donc éviter le confinement, si c'est une option rationnelle, réaliste, tant mieux.
Ce que je regrette, ça ne fait pas prendre un risque, d'autant plus de variants.
On a aujourd'hui des infectiologues, des épidémiologistes, des médecins, des urgentistes qui s'expriment beaucoup, parfois peut-être trop.
Ah, vous trouvez aussi qu'il y a... Parce que non, ça agace aussi le président de la République,
apparemment. Non, la question, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que, y compris si on veut vraiment un rendez-vous chez le médecin, on a plutôt intérêt à appeler les chaînes infos que le médecin lui-même. Il y a plus de médecins sur les plateaux que dans les cabinets. Non, je caricature un peu, mais il y a trop d'expressions. Mais quand Delfrécy, quand Fontané s'expriment, ça pèse lourd.
Vous pensez qu'on échappera, ça vaut alerte. On échappera à un troisième confinement, vous pensez ?
Je souhaite. Ce que dit Fontané ce matin, comme d'autres, c'est que le dispositif aujourd'hui de règles sanitaires permet de contrôler le virus avant variant. Avec le variant anglais, on ne sait pas bien si ce dispositif est suffisant ou pas. On va avoir les vacances scolaires, tant mieux. Est-ce que ça va suffire pour contrôler la propagation du variant ? Il faut toutes et tous l'espérer et respecter l'ensemble des mesures très strictement. Bon. Mais moi, ce que je regrette, si vous voulez, sur les annonces, c'est que on a toujours l'impression qu'on est un peu dans le coup politique plutôt que dans la pédagogie et la construction d'une décision que tous les Françaises et les Français peuvent comprendre. Vous savez, vous souvenez la dernière conférence ou la dernière intervention du président de la République sur TF1. Je veux dire, il y a le gouvernement qui se réunit, ils ne savent même pas que le président de la République intervient en même temps à la télé. Donc ce que les Françaises et les Françaises attendent,
Ça démontre que ce n'est pas un coup politique, justement, qu'il y a peut-être un peu d'improvisation oui, mais... ou de flottement au sommet de l'État.
Oui, mais pourquoi on fait de l'improvisation ? Parce qu'à un moment donné, on pense que ça peut marcher de faire ce coup politique sur TF1. Ce que les Françaises et les Français ont compris, c'est que ce virus est instable. Il y a plein d'inconnus. Les Françaises et les Français ont parfaitement conscience de la brutalité, de la violence, des incertitudes.
Oui, mais Yannick Jadot...
Et que c'est une pandémie mondiale. Du coup... Ils n'ont pas besoin d'être surpris, ils n'ont pas besoin d'être bluffés, ils n'ont pas besoin de paris politiques, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on leur explique qu'est-ce qui va leur arriver et quels sont les tenants, les aboutissants des décisions.
Sûrement, vu la situation dans laquelle vous vous placez, vous vous êtes posé la question, à sa place du président de la République, qu'auriez-vous fait ?
J'aurais fait un conseil de sécurité sanitaire dès le début. J'ai fait la proposition. J'ai fait la proposition dès le début. Non, un conseil de sécurité sanitaire qui associe autour des scientifiques, évidemment, autour des scientifiques, les différentes forces politiques, les entreprises, les salariés, les acteurs de la solidarité. Parce que moins on en sait et plus le partage du diagnostic. Et plus l'intelligence collective est essentielle et beaucoup plus efficace que la décision d'un seul.
La décision, à un moment donné, elle est aussi solitaire. Autre question.
La question n'est pas de retirer au président de la République ses prérogatives. La question, c'est que les Françaises et les Français comprennent parfaitement pourquoi on prend des décisions. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français subissent avec une immense responsabilité cette crise. Et donc, ils méritent qu'on leur explique calmement pourquoi on prend telle décision.
Le troisième vaccin commence à être un petit peu à être administré, notamment aux soignants les plus jeunes. Faut-il vacciner les enseignants, compte tenu du risque du retour des vacances ?
Ce que disait le professeur, d'ailleurs, Fontané, également dans le journal du dimanche ce matin, c'était où est-ce que ça circule ? Ça circule à partir du moment, finalement, ce qu'il semble dire, à partir du moment où on met un masque, il y a très peu de circulation, que ce soit y compris dans les transports, dans les magasins, il y a très peu de circulation. En revanche, c'est dès qu'on l'enlève, en famille, entre amis, et évidemment, les enfants à l'école. Donc, toutes les personnes qui sont les plus exposées au virus, évidemment, devraient être prioritaires, donc les enseignants. Mais ce n'est pas simplement comme ça qu'on résout la question de l'organisation de l'école. Moi, depuis le début, on est toujours dans une sorte d'urgence sans essayer d'installer quelque chose qui soit, y compris, beaucoup plus épanouissant pour les enfants. Par exemple, on a besoin de réouvrir nos musées. On a des troupes de théâtre ou des troupes de spectacle vivants qui, aujourd'hui, heureusement, parfois avec difficulté, bénéficient de soutien public pour ne pas totalement disparaître. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on ne pourrait pas, dans les classes, avoir des demi-groupes. Il y a un groupe qui est à l'école, l'autre qui va au musée, qui va voir la nature, qui va voir un spectacle dans des conditions sanitaires extrêmement strictes. Ça permettrait, dans ce moment de détresse psychologique profonde pour les enfants, eh ben, d'avoir accès à un épanouissement plus fort, culture, alors, sport, nature.
Et moi, ce que je ne comprends pas trop, au fond, c'est que, bon, je vous écoute là, mais en regardant vos 10 chantiers pour une république écologique, hein, que vous avez publié, on ne voit pas de solution pour la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous feriez? Vous commencez simplement à nous en parler, on va en parler durant l'émission, mais pourquoi, au fond, vous n'avez pas proposé de solution sur la crise sanitaire qui est quand même en haut des préoccupations des Français?
Parce que ça fait un an qu'on fait des propositions sur la crise sanitaire.
Mais justement, pourquoi ne pas l'avoir rassemblé?
Non, mais j'ai pas répété.
Votre méthode?
J'ai pas répété, mais je l'ai dit. Moi, ce que je pense, c'est que depuis le début, on n'a jamais compris pourquoi les maires, les présidentes, les présidents de région n'étaient pas davantage associés aux décisions, parce qu'on sait qu'il y a une nécessité d'adapter les règles nationales au territoire, aux spécificités. Donc, on a dit tout ça. Mais moi, je fais aussi mon boulot comme parlementaire européen. Là, on va mettre la Commission européenne devant la Cour européenne de justice parce qu'on considère absolument inadmissible qu'il n'y ait pas de transparence sur les contrats qui sont passés par la Commission européenne avec les grands laboratoires. On a...
Vous poursuivez la Commission européenne?
On poursuit la Commission européenne devant la Cour de justice. Vous savez, il y a des règles européennes très strictes sur la transparence de ce type d'informations et que ça participe d'une défiance vis-à-vis de cette période de vaccination. Il faut rétablir la confiance. Et puis, la Commission européenne, d'une certaine façon, l'Europe a été très utile parce que sinon la France se serait enfermée avec Sanofi sur les vaccins. Mais reconnaissons, quand on est à 2,5% de la population vaccinée, quand on est à 10% aux États-Unis, c'est qu'on a fait preuve d'une trop grande frilosité en matière de contrats avec les laboratoires.
Alors, on va voir quelles sont les audaces de Yannick Jadot sur les autres sujets. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Yannick Jadot, eurodéputé, Euroécologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, la République écologique sera à l'épreuve des faits. Tout d'abord, le projet de loi sur le séparatisme est examiné par les députés depuis la semaine dernière. Ça donne lieu à de vifs débats. La gauche estime que ce texte n'est pas utile. On écoute, on regarde Jean-Luc Mélenchon.
Ce texte ne sert à rien. Ce texte est dangereux. Et je vous mets en garde. Non, les chemins de la raison ne s'ouvrent pas à la faux. Non, la porte de l'universel ne s'ouvre pas à coups de pied. Non, l'amour de la République, comme tout amour, ne vaut rien sous la menace.
Yannick Jadot, ce texte, hein, censé défendre les principes, conforter les principes républicains, est-ce qu'il est utile ou est-ce qu'il est dangereux, comme le dit Jean-Luc Mélenchon?
Quand j'entends même les députés La République En Marche, ils doutent de l'efficacité de ce texte parce qu'ils considèrent que finalement...
Ils le votent,
mais ce texte n'apporte pas grand-chose. On est sur un sujet que nous savons extrêmement sensible et vous savez, depuis des mois, j'appelle à ce qu'on se donne tous les moyens pour combattre les ennemis de la République. J'ai pas d'ambiguïté, aucune ambiguïté là-dessus. Il faut combattre.
Il n'apporte pas grand-chose, mais il n'est pas dangereux, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ce qui est un peu différent.
Mais quand, par exemple, moi, j'avais dit dès la rentrée sur ces sujets-là, bien avant même que le président de la République intervienne, il faut contrôler les financements des associations, le statut et le financement des associations.
Dont acte, le texte le fait, le propose.
Dont acte. Mais quand vous regardez comment sont organisés les différents contrôles des associations. Pour les associations cultuelles, loi 1905, c'est au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau de Bercy. Pour les associations culturelles, loi 1901, c'est plutôt au niveau de la chambre régionale des comptes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'état des contrôles exercés par l'inspection générale des finances les associations de loi? Non,
okay, mais
pour savoir s'il y a des failles.
Pas un peu la petite bête là.
Non, c'est pas une petite bête. La question, c'est... Moi, je suis pour qu'on comble toutes les failles aujourd'hui en matière de lutte contre
Est-ce que vous voteriez ce texte aujourd'hui? Vous seriez à l'Assemblée nationale. Vous votez ce texte?
Non, parce qu'il n'a pas l'équilibre nécessaire, indispensable aujourd'hui, qui est, si on veut combattre efficacement les ennemis de la République, il faut par ailleurs tenir la promesse républicaine. On ne peut pas. Pourquoi est-ce que les ennemis de la République prospèrent dans certains lieux de notre territoire ? Ils prospèrent parce que il y a ghettoisation, il y a discrimination, il y a retrait de la puissance publique, il n'y a plus de services publics. On a coupé les soutiens aux associations.
Il n'est pas équilibré
quand
pour vous.
Il est totalement déséquilibré. Pourquoi vous pensez que des associations d'obédience salafiste ou des frères musulmans pullulent dans certains lieux de la République ? Parce que il n'y a plus d'associations pour l'aide au soutien scolaire. Il n'y a plus d'associations pour l'aide alimentaire. Et pourtant, il y a un boulot extraordinaire qui est fait.
C'est le volet égalité des chances. Emmanuel Macron peut faire des annonces
Sert à rien de... moi, je suis notamment pour renforcer tous les dispositifs sur le contrôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a besoin, en vrai, d'un réarmement idéologique sur les réseaux sociaux. 90-95% des messages liés à l'islam sur les réseaux sociaux sont portés plutôt par des salafistes.
C'est-à-dire que l'engagement...
Et donc, on a besoin... Quand j'entends le recteur de la mosquée de Paris, quand j'entends des intellectuels, quand j'entends un certain nombre d'imams, de musulmanes, de musulmans, de cultures ou de religions musulmanes, intervenir, s'emparer, dire « on va peser sur ce débat-là », eh bien, il faut se donner tous les moyens du réarmement idéologique, parce que c'est aussi là qu'on gagnera.
En tout cas, sur la laïcité, vous avez été plutôt en rupture avec votre parti. Vous étiez, par exemple, contre le burkini. Est-ce que c'est votre façon à vous de parler au-delà de votre propre camp, de parler là ?
C'est ma conviction, c'est ma sincérité.
Ça fait des remous.
Je crois qu'aujourd'hui, le pays est taraudé par des questions très sensibles de culture, d'identité, d'inégalité des territoires, d'insécurité économique, sociale, et que nous devons absolument le réconcilier avec lui-même. Donc ça veut dire ne sortir de toute naïveté, de toute complaisance, je l'ai dit, vis-à-vis des ennemis de la République, mais c'est se donner les moyens.
Attendez, Yannick Jadot, est-ce qu'on peut sortir des généralités, des formules, la fermeture des mosquées qui prône le séparatisme, les associations qui prônent le séparatisme, pour vous, c'est pas un sujet.
D'abord, il faut rétablir l'égalité des droits. Non, je viens juste de dire que je n'avais pas de souci avec ça. Mais dans l'article 31... Pardonnez-moi, vous reprenez la loi sur la laïcité. Dans l'article 31, vous avez totalement la possibilité de porter devant la justice toute personne qui exercerait du prosélytisme par la contrainte.
Jusqu'à présent, on ne pouvait pas contrôler, il n'y avait que les contrôles religieux, contrôles sociaux, il y a un bureau des cultes.
Au ministère de l'Intérieur, les préfets peuvent être alertés.
Est-ce que l'islam politique est un problème pour vous ? Est-ce que l'islam politique est l'ennemi à désigner, comme le fait le président de la République, comme le fait le gouvernement ?
Mais toute dérive des religions qui veulent s'emparer de la politique est un problème pour
moi.
Nous devons rester dans des démocraties sécularisées. À la fois, la loi protège la foi. Mais la foi ne dicte pas la loi.
Oui, ça c'est un récit brillant. Mais j'entends pas votre condamnation de l'islam politique.
Mais je l'ai dit. Moi, je combats l'islam politique. C'est une dérive insupportable d'une religion. Je combats l'islam politique comme je me bats parce que c'est très présent en France et qu'il faut mener ce combat-là. Mais je me bats aussi contre les dérives totalement inacceptable en Pologne du catholicisme qui aujourd'hui fait qu'une femme ne va plus pouvoir avorter dans des conditions décentes, dans des situations dramatiques. Donc on a aujourd'hui un sujet, je l'ai dit, combattons les ennemis de la République. Mais vous savez, j'étais il y a deux jours à Lorient et j'ai rencontré des associations qui se sont créées dans les quartiers justement pour compenser l'absence de l'État, faire dans cette situation dramatique de l'aide alimentaire et tout ça, pour aller chercher les jeunes là où ils sont parfois dans des logiques de repli, justement pour les sortir
Pour mieux comprendre encore, dans vos propositions, il y a ce projet de créer un ministère, ce que vous appelez de la protection républicaine, c'est-à-dire sortir les cultes du ministère de l'Intérieur. Vous annoncez la dissolution du ministère de l'Intérieur dans votre programme ?
J'annonce la transformation du ministère de l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur s'occupe de la sécurité, de la tranquillité et de la protection des Françaises et des Français uniquement.
Plus des cultes.
Plus des cultes, plus de l'asile et des migrations. Pendant longtemps, l'asile et les migrations, ce n'était d'ailleurs pas au ministère de l'Intérieur, c'était au ministère des Affaires sociales. Je propose que soit ça transféré à un ministère des Solidarités et de l'Intégration, que la question des libertés publiques soit transférée évidemment au ministère de la Justice. On a, vous vous rendez compte que pour discuter avec beaucoup de policiers et policières, quand ils passent du temps à faire une procuration de vote, à faire de la paperasse, à faire plein de choses qui ne relèvent pas en réalité de leur mission. Ils n'ont pas le temps, elles n'ont pas le temps de s'occuper de notre sécurité. Donc ayons un vrai ministère de la protection républicaine qui s'occupe de notre sécurité. Donnons, c'est ce que je propose aussi, une grande loi de programmation pour repenser évidemment les missions de la police, de la gendarmerie, la formation, les méthodes et les moyens d'intervention
de la sécurité qui va se lancer.
Non, attendez, on attend de savoir si, au-delà de la discussion, il y aura cette grande loi de programmation qui nous permettra de renforcer la sécurité de notre pays.
En tout cas, sur le social, sur la jeunesse, dont on sait la détresse en ce moment, vous proposez une sorte de revenu universel pour les jeunes de plus de 18 ans, 653 euros, je crois. Vous, vous craignez pas cette question de l'assistanat ? Vous êtes pas... Emmanuel Macron, par exemple, dit qu'il faut vraiment pousser les jeunes à s'insérer. Et si on leur donne un revenu, un pécule à 18 ans, finalement, ça les enferme dans l'assistanat.
Donc, en fait, à 26 ans, on considère parfaitement normal d'accompagner...
Les gens sont formés, en général, à 26 ans, plus qu'à 18 ans. À 18 ans, est-ce qu'il ne faut pas pousser les jeunes à se former et à s'insérer ?
Là aussi, il faut marcher sur nos deux jambes. Évidemment... La priorité, c'est l'éducation, la formation, l'accompagnement. Il y a un travail énorme. Moi, je visite les CFA, tout ça. Il y a un travail énorme.
Les centres de formation, de l'apprentissage.
Exactement. Il y a un travail, les lycées pro, il y a un travail énorme dans notre système éducatif à bien orienter nos jeunes pour qu'ils trouvent un métier, une vocation dans laquelle ils vont s'épanouir. Ça, c'est la première chose. Évidemment, et c'est pour ça que je me bats, pour qu'on développe tous les secteurs, y compris les secteurs liés à la transition écologique, que ce soit les services, les énergies renouvelables, le bâtiment, l'économie circulaire.
Mais ils ont quand même besoin de 653 euros.
Mais bien sûr, parce que vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont rien.
Sous condition de
ressources. Vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont rien, évidemment. Pourquoi est-ce que le RSA concerne tout le monde, sauf les jeunes ? Je veux dire, on a des jeunes, moi j'en ai, encore une fois, j'en ai rencontré cette semaine, des jeunes qui aujourd'hui soit sont à la fac, soit ne sont pas en formation ou dans le système éducatif, qui sont totalement à la ramasse. Excusez-moi de ce propos un peu grossier, mais détresse psychologique, explosion des envies de suicide, d'automutilation, le dérèglement climatique qui menace. Maintenant, on va leur dire, en plus, c'est vous qui allez payer la dette Covid. Tout ça crée une crise de l'avenir pour notre jeunesse. Il faut en prendre soin. La jeunesse, c'est notre avenir. Les jeunes sont notre avenir. C'est pas simplement nos enfants. C'est notre avenir. Et donc, évidemment, des filets de sécurité pour ces jeunes... Évidemment, massivement, la formation, l'emploi. Mais quand vous n'avez plus rien de tout ça, eh ben, il faut un filet de sécurité comme tout le monde.
On va continuer à en parler, mais je vous rappelle qu'Europe 1 s'engage toute la semaine à partir de demain, justement, pour aider cette jeunesse qui construit notre avenir et qui est en pleine détresse. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Yannick Jadot, donc Europe Écologie Les Verts, qui lui donc cherche à être candidat pour 2022. Question de Cécile Cornudet.
Oui, on poursuit sur vos propositions, Yannick Jadot. Vous proposez d'interdire les véhicules diesel et thermiques plus tôt que prévu, en 2030, c'est-à-dire dans 9 ans. Comment vous faites pour accompagner les personnes les plus modestes ? Est-ce qu'on risque pas là d'avoir une taxe carbone XXL ?
Non, c'est bien le contraire. On est dans une situation aujourd'hui où on a 67 000 morts dans notre pays liés à la pollution de l'air, dont une bonne partie vient du diesel et du trafic automobile en ville. On a beaucoup de villes aujourd'hui qui, à partir de 2024-2025, vont commencer à interdire la circulation de ces automobiles. C'est en France et c'est évidemment très largement...
Mais il n'y a pas que les métropoles en France.
Bien sûr, et très largement en Europe. La Grande-Bretagne vient de décider l'interdiction de la vente des véhicules diesel thermiques classiques à partir de 2030. C'est le cas aussi, notamment dans certains pays nordiques. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que on adapte notre industrie automobile à ces nouveaux enjeux climat, santé, innovation, ou on laisse,
Est-ce que les classes les plus populaires des gens qui ont ces voitures, ce sont des personnes modestes.
Mais vous avez parfaitement raison. Moi, vous savez, je viens de Picardie. Dans mon village où je suis né, vous n'avez plus de gare avec un. Il n'y a pas de train qui passe, il n'y a pas les bus, il n'y a pas le métro, il n'y a pas le tram. Donc évidemment, il faut un véhicule. La question, c'est quel type de véhicule. Moi, ce que je veux travailler avec l'industrie automobile, avec les équipementiers, avec les salariés, évidemment avec les consommateurs, à ce que justement notre industrie automobile permette, à partir de 2030, d'avoir des véhicules parfaitement accessibles à toutes et à tous, et qui soient des véhicules beaucoup moins polluants, beaucoup moins impactants sur le climat. Parce que qu'est-ce qui va se passer, la réalité ? Moi, je veux bien qu'on continue, en France, à se mettre la tête dans le sable dès qu'il s'agit de l'industrie automobile. En 2008, grosse crise de l'industrie automobile. On a donné des milliards, On a perdu 25%.
Enfin, elle se renouvelle beaucoup, l'industrie automobile, quand même.
Pas assez vite,
Elle a intégré tous les processus
de
transition économique.
La réalité, Michel Darmon, c'est que si on ne bouge pas en Europe sur l'industrie automobile, demain, ce qu'on achètera, c'est des bagnoles fabriquées en Chine et pilotées par Google. Eh bien, moi, je me refuse à la disparition de l'industrie automobile européenne. Donc, innovant. On met des milliards aujourd'hui sur l'industrie automobile.
Ça ne correspond pas exactement à la réalité, quand même,
pourquoi
ce que vous dites.
Mais vous allez voir, enfin, vous ne voyez pas la rapidité de la transformation du secteur automobile. Aujourd'hui, Tesla, au niveau en termes de capitalisation boursière, Tesla pèse plus que les 10 constructeurs automobiles suivants. Est-ce qu'à un moment, on intègre ce qui est en train de se passer dans la réalité économique ?
Des véhicules extrêmement coûteux et onéreux, mais bon.
Non, mais je ne vous dis pas que... Ce que je vous dis, c'est que si on n'intègre pas à la fois les enjeux de santé et de climat qui doivent structurer... Notre nouvelle économie. Mais si on n'intègre pas les évolutions de l'industrie qui sont en cours, on perdra les emplois, on perdra les usines.
La question,
moi, je ne veux pas perdre les emplois et les usines en Europe.
Vous posez la question du pilotage de l'État dans cette transition majeure pour notre époque et pour la survie, tout simplement, de la planète. Mais pour la première fois, justement, dans l'histoire, eh bien, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français, reconnu fautif justement de ne pas avoir tenu ses engagements climatiques. L'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot, aujourd'hui à la tête de l'ONG donc Oxfam, est à l'initiative de ce recours en justice. On écoute, on regarde.
On ne peut pas renvoyer aux citoyens la responsabilité de lutter contre le dérèglement climatique. Il faut que l'État agisse par des politiques publiques. C'est ça notre objectif. C'est pas de faire condamner l'État. C'est que des choses se passent, c'est que la politique change, c'est qu'on apporte les vraies réponses.
Faire condamner l'État à un euro symbolique, c'est une victoire pour vous aussi ?
C'est une victoire et c'est une défaite. C'est une victoire parce qu'il y a une extraordinaire mobilisation citoyenne, plus de 2 millions de personnes qui ont soutenu cette pétition et ce recours en justice. Donc c'est une victoire de la mobilisation citoyenne et que la justice reconnaisse la nécessité absolue de lutter contre le dérèglement climatique à la hauteur du défi. C'est un échec parce que ça veut dire que le gouvernement n'agit pas assez. Ça veut dire que, de fait, nous ne sommes pas à la hauteur du dérèglement climatique. Le président de la République, sur l'environnement, on gardera deux initiatives dans ce quinquennat. Deux, la création du Haut Conseil sur le climat, qui rappelle à longueur de rapport que le gouvernement devrait faire trois, quatre fois plus. Et la Convention citoyenne sur le climat, qui est une belle initiative pour mettre des femmes et des hommes qui, en quelques mois, intègrent l'ensemble des problématiques, font des recommandations. Et là, on pioche et on fait la moitié du boulot.
Et justement, on a... Yannick Jadot, le projet de loi issu de cette convention citoyenne, il arrive en examen à l'Assemblée. D'accord. Il n'est pas suffisant selon vous ?
Avec un référendum en plus annoncé par le président de la République.
D'accord. Vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté le nouveau rapport de Météo France il y a quelques jours. Si on n'agit pas plus que ce que nous faisons aujourd'hui.
Réchauffement massif.
On aura près de 30 jours de canicule par été. 30 jours de canicule, la moyenne des dernières décennies, c'était 2, 3, 4. Attendez, on aura des températures à 50 degrés, des feux de forêt, des inondations, des vagues submersions. Donc la nécessité d'agir, elle est extraordinairement importante. Il faut agir. Le mandat de la Convention citoyenne, c'était de donner un cadre de mesure pour atteindre 40% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Au niveau européen, on est déjà en train de passer à 55 ou 60 pour être en lien avec la science. Et le gouvernement ne retient même pas la moitié de ce qu'il faudrait faire. On n'est pas à la hauteur. Mais ce que je trouve terrible, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'automobile, ce que je trouve terrible, c'est que on a à la fois ce défi. Quel défi de la civilisation ? Quel est le défi de la civilisation ? Le dérèglement climatique. Et on a d'incroyables opportunités économiques, de recherche, de création d'emplois, d'aménagement de nos territoires, grâce à la lutte contre le dérèglement climatique. L'agriculture locale, l'agriculture bio, tous les services, je l'ai dit, l'économie circulaire qui est une économie d'innovation incroyable.
Et Yannick Jadot, j'ai une question de stratégie.
C'est une idée.
On sait bien qu'un candidat à la présidentielle ne peut pas gagner sans le vote des personnes âgées. Or, les personnes âgées, même si elles évoluent un peu, restent très hermétiques à toutes ces questions d'environnement. Comment vous faites-vous ? Si, ça évolue un peu, mais très peu. Comment vous faites pour les convaincre ? C'est quoi votre stratégie vis-à-vis d'elles ?
Il faut à la fois, évidemment, et je crois que quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, les Françaises et les Français ont compris les enjeux du dérèglement climatique. Évidemment, on ne perçoit pas ce que peut être un chaos climatique. Ce que peut être un chaos climatique si on n'agit pas. C'est tout ce qui va mal en matière météo en permanence. C'est ça le chaos climatique. Hein. Et donc ça veut dire notre agriculture sacrifiée, ça veut dire les stations de montagne sacrifiées.
Oui, voilà, sacrifiées. Compris, mais c'est
la question précise. Mais donc, il faut ça. Et après, c'est comment, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. C'est ça le ressort de la victoire des écologistes. C'est à la fois donner une perspective, mais c'est comment on transforme la vie quotidienne. Quand on a plus de transports collectifs à disponibilité, pour les personnes âgées, c'est bien de pouvoir se déplacer dans des transports collectifs qui sont des transports confortables. Quand le logement est une de mes propositions, c'est évidemment que les passoires énergétiques, et notamment pour les populations les plus vulnérables, la rénovation thermique soit totalement prise en charge. Bon. Quand vous avez un appartement ou une maison qui est mieux isolée, ça veut dire que, évidemment, vous avez des gains de pouvoir d'achat, et on sait que pour les personnes âgées, c'est un enjeu très fort, bien sûr, de sécurité morale et financière. Ça veut dire un appartement plus confortable.
Donc vous aurez un programme.
Ça veut dire un appartement qui résiste à la fois au froid, mais qui résiste au chaud. Et donc, il faut qu'on arrive par la démonstration, parce que tout ça existe aujourd'hui, mais ça n'est pas au cœur des politiques.
Une question.
Par la démonstration, il faut montrer qu'on va transformer
alors, on
la vie quotidienne.
Vous aurez un discours pour essayer de convaincre justement les plus sceptiques, mais aussi, ça participe aussi à cette même question, à propos d'énergie, est-ce que vous êtes prêt à assumer que l'énergie propre est pas chère, comme il se murmure quand même beaucoup dans vos rangs, c'est le nucléaire ?
Alors là, je ne sais pas qui peut tenir un tel discours.
Quand on voit le fiasco en disant qu'il sera peut-être, on sera peut-être amené à regarder quand même cette réalité en face. Vous prétendez
Michael Darmon, à la fonction suprême, vous avez une représentante des Échos, journal très sérieux de rationalité économique.
Sans aucune contestation. Alors,
aujourd'hui, les énergies renouvelables sont deux fois moins chères que le nucléaire, créent deux fois plus d'emplois. EDF. Je vais prendre un autre exemple. Enel, qui est l'équivalent italien d'EDF. Enel a décidé de faire le pari de la transition énergétique, l'air renouvelable, l'efficacité, les réseaux intelligents. Depuis 2014, ils ont doublé leur valeur. Depuis 2014, EDF a divisé par 2 ou 3 sa valeur. On a un endettement record et on a un projet Hercule porté par Emmanuel Macron, qui décidément, en termes de mécano industriel dans l'énergie, aura fait à peu près le pire, qui consiste à nationaliser toutes les pertes du nucléaire et à privatiser tous les gains des énergies renouvelables. S'il devait y avoir une preuve que la rationalité économique aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables, c'est de regarder le projet de réforme d'EDF, qui est une caricature de ce point de vue-là.
Il faudra à ce moment-là revenir sur ce sujet, bien entendu, parce que pour les Français, c'est évidemment une question très importante. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Yannick Jadot, notre invité. La semaine dernière, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, était à votre place. Il a délivré un message très particulier, très politique. On écoute, on regarde.
Vous avez des gens qui vont être un jour à 10, qui vont vous dire « je suis le roi du pétrole ». Nous avons aujourd'hui à travailler. Et ce que je vois, c'est que si la gauche n'était pas la plus bête du monde et qu'elle savait présenter une offre commune, elle serait devant Marine Le Pen et elle serait devant Emmanuel Macron.
C'est vous le roi du pétrole ?
Je suis pas sûr qu'on a envie, nous les écologistes, d'être le roi du pétrole. On préfère profiter du soleil, du vent, de miser sur la santé, la solidarité. Moi, je suis convaincu.
Vous voulez pas être du vent, en tout cas. Hein.
Moi, je suis convaincu que le rassemblement auquel je crois, qui est entre Mélenchon et Macron, peut gagner cette élection présidentielle. Et je suis convaincu aussi que on trouvera le chemin pour une candidature commune. Pour que cet espace politique entre Mélenchon et Macron gagne, il faut évidemment une candidature à cet espace politique et que on voit aujourd'hui l'aspiration populaire à retrouver du sens, à recréer des liens, à protéger la santé, à protéger le climat, à créer de l'emploi à l'échelle des territoires très ancrés.
Il y a déjà
de
l'aspiration populaire pour l'instant selon un plusieurs sondages. Enfin, selon le sondage Ipsos Soprasteria pour l'Obs la semaine dernière, eh bien, il nous considère que entre 16 et 17%. Ça fait le score que vous pouvez atteindre entre Hidalgo et Anne Hidalgo et vous. Vous êtes pratiquement au coude à coude. Donc le match Jadot-Hidalgo est lancé.
Le seul match sur lequel les écologistes doivent investir, c'est le match pour éviter le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Bon,
d'éviter à la fois de poursuivre dans un système qui nous amène les pandémies, le dérèglement climatique et les inégalités sociales, et la peste brune qui nous ferait renouer avec les pires heures de notre histoire. Donc c'est ça ma priorité. Et démarrer alors que ce rassemblement autour de l'écologie n'est pas installé. Il n'est pas installé, il est un souhait exprimé, il n'est pas installé. Démarrer à 17, je peux vous dire que ça peut créer une dynamique à la fois pour celles et ceux qui, électorat de Jean-Luc Mélenchon, se disent « il faut gagner cette fois, il faut gagner cette fois ». Et puis, toutes celles et tous ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté en pensant qu'on allait en finir avec la rente, qu'on allait en finir avec la technocratie, qu'on allait remettre plus de justice, plus de territoire, plus de forces vives, et qui s'aperçoivent qu'ils sont tombés dans le piège d'une verticalité autoritaire et bunkérisée.
Ça, c'est un peu dans votre monde idéal. Le chemin est plus compliqué. Cécile Cornudet.
Oui,
mais quand il y a une volonté,
oui, on connaît, mais
il y a un chemin.
Vous allez nous expliquer plutôt votre volonté. Allons-y.
Parlons après de ce qui fâche, la primaire écologiste. On voit depuis 3-4 mois que vous n'avez aucune envie d'y aller et on vous comprend parce qu'on voit que la machine à vous exclure chez eux est absolument engagée. En même temps, vous dites « j'ai besoin de ma famille ». Vous ne dites pas clairement « je n'irai pas à cette primaire écologique ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment.
Parce que c'est ma famille. Parce
donc que vous, moi, j'ai, vous moi, irez j'ai, à la primaire écologiste.
Soyez clair.
Parce que vous
j'ai,
irez...
Mais j'ai été extrêmement clair, si je peux juste commencer ma phrase.
Allez-y.
J'ai participé à la construction d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que sur les 2-3 dernières années, j'ai contribué à ce que on réduise le fossé entre l'aspiration populaire à l'écologie et son débouché politique. On a fait un bon score aux européennes, on a fait de très bons scores aux municipales, on prépare les départementales et les régionales avec autant de conviction, d'ambition et de sérieux. Et donc, l'écologie, c'est ma famille politique. Moi, je ne veux pas contourner ma famille politique.
Donc, vous serez à la primaire.
Je dis simplement que... et vous savez, j'étais le premier, avant qu'on rentre dans le deuxième confinement, à demander un vote des militants. Donc je ne crains pas le vote des militants. J'ai toujours été désigné par vote des militants. Ce que je dis, c'est que si on veut gagner la présidentielle, c'est une candidature commune à un espace politique qui est plus large que les seuls écologistes. Si on veut gagner la présidentielle, il nous faut le projet. C'est pourquoi je mets des propositions sur la table. Et qu'à un moment donné, il faudra un processus de désignation qui soit à l'échelle de cet espace politique.
Parce qu'on pourrait penser qu'il y en ait deux. Un, vous faites la primaire écologiste, très bien. Et derrière...
Si c'est ça, je me plierai aux conditions qui seront décidées par ma famille politique ou par d'autres familles politiques.
Alors justement, c'est là où on comprend pas. Ou d'autres familles politiques. Est-ce qu'il faut une primaire qui soit élargie, par exemple, au socialiste, à Hidalgo également, à rejoindre une primaire.
Si vous voulez, il y a plusieurs types de primaires. Il y a les primaires qui ont été des primaires de conquête. Prenons, je ne sais pas, la primaire socialiste de 2011-2012. C'est une primaire de conquête où on se dit on veut absolument gagner et on choisit la personne qui peut gagner. Ça, c'est la primaire de conquête. Et puis, vous avez des primaires identitaires où les primaires, comme en 2016-2017, à gauche comme à droite, d'ailleurs, pour des raisons différentes, c'était des formes de congrès où on décidait quelle était l'identité de la famille politique.
Et qui il fallait éliminer, par exemple. Et qui, vous considérez que chez vous, il y a des candidats qui veulent uniquement vous éliminer.
Je veux convaincre l'ensemble des participants à une primaire écologiste, comme l'ensemble des participants, encore une fois, entre Mélenchon et Macron, de se donner les moyens de gagner. Et ma conviction, c'est que c'est autour de l'écologie et d'une candidature écologiste que ça peut gagner et qu'on doit gagner. On ne va pas laisser
Anne
les
Hidalgo
jeunes...
Anne Hidalgo ne veut pas d'une primaire comme ça.
Mais j'en sais rien. Est-ce qu'elle est candidate
à la présidentielle,
vous en
peut-être
mais... Non, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas d'avis. Vous doutez de son avis? Mais j'en sais rien du tout. Moi, je n'ai pas d'avis. Simplement,
c'est pas possible. Vous avez forcément un avis, donc.
Mais non, je veux dire, moi, j'ai pas à m'exprimer pour Anne Hidalgo.
Je sais pas comment vous regardez son parcours, sa manière de s'organiser. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Ma conviction, c'est que la social-démocratie, qui dans les 10 dernières années a gouverné 5 ans, gouvernait encore il y a 4 ans, a d'incroyables richesses. Elle a aussi montré ses limites. Ma conviction, c'est qu'on a changé d'époque. Et que c'est une écologiste ou un écologiste qui doit conduire ce grand rassemblement, parce que, y compris le défi... Enfin, on a eu 5 ans de gouvernement socialiste, la révolution écologique, on l'a pas encore.
Anne Hidalgo, elle fait beaucoup d'écologie à Paris.
Anne Hidalgo, en coalition avec les écologistes, essaye de construire un bilan sur l'écologie. Tant mieux. Mais moi, je vois Olivier Faure, je vois d'autres responsables socialistes. Anne Hidalgo est une figure du Parti socialiste incontestable. Je les vois venir sur l'écologie. Tant mieux. Mais à ce stade de dérèglement climatique, à ce stade d'impact des pandémies, à ce stade de nécessité de lutte contre les inégalités, d'innovation, de reconstruction de notre politique industrielle, eh ben, il faut un écologiste, il ne faut pas des demi-mesures.
Cécile Cornudet.
C'est qui vos proches, Yannick Jadot? On vous sent, vous voyez,
ah,
c'est
ça
compliqué.
Oui, avec... j'ai bien entendu la fable dans la presse qui est de dire Jadot, il est isolé.
Quand je fais des réunions en interne,
encore il y a quelques jours, on parlait politique étrangère, Europe, parce que c'est un enjeu essentiel de préparation d'une présidentielle. On était 350.
Et dans la société civile?
Mais dans la société civile, vous savez, c'est très... On est un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Vous savez, quand je parle avec des policiers et des policières, eh ben, je ne peux pas donner leur nom. Parce que sinon, ça leur pose un problème, évidemment, du point de vue des corps auxquels ils appartiennent. J'étais sur le terrain encore à Lorient avec les jeunes, avec des étudiants, avec des associations qui interviennent dans les cités. Je travaille évidemment avec des magistrats sur la question de la sécurité. Je travaille avec des entreprises, avec des salariés, des syndicalistes sur comment on organise cette reconstruction industrielle qui... à la fois permet d'innover...
Donc vous avez une technostructure qui travaille déjà pour vous dans l'ombre, c'est ça que vous dites ?
Bien sûr, j'ai une centaine d'experts qui ont contribué à l'esquisse qui cherche à démontrer et qu'on peut retrouver sur 2022l'écologie.fr, qui cherche justement à esquisser à quel point l'écologie permet de repenser nos enjeux de sécurité, permet de repenser les nouvelles protections sociales, permet de repenser notre industrie comme notre économie de service, permet de repenser l'aménagement du territoire. Et c'est ça, si on est sérieux, si on a la conviction, pas simplement de gagner l'élection présidentielle, je vais finir, mais l'enjeu, c'est pas de gagner, c'est pas de battre Macron. L'enjeu, c'est de prendre sa place, c'est de prendre la place de son gouvernement, c'est de prendre la place de sa majorité à l'Assemblée. Et ça, c'est une responsabilité extraordinaire vis-à-vis des Françaises et des Français et sur lesquelles je veux absolument qu'on soit prêt.
C'était le grand rendez-vous de Yannick Jadot. Merci beaucoup, à dimanche.
Merci. Europe 1.